au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, je reçois dans cette émission au fil des pages Louis Monnier, le célèbre photographe des hommes de lettres, mais pas que des hommes de lettres. Bonjour Louis, merci beaucoup d'être dans cette émission.
Bonjour Émilie.
Vous avez photographié de nombreux portraits d'hommes célèbres, Malraux, Ionesco, enfin beaucoup d'autres, mais vous ne vous intéressez pas qu'à eux, vous vous intéressez au monde, vous vous intéressez au voyage et à des moments d'éternité, des petites touches d'impression, comme vous le dites vous-même, dans ce livre que vous venez nous présenter aujourd'hui et qui s'intitule « Vietnam Impression ». Il est édité chez Timé Éditions et vous avez, pour le réaliser, vous vous êtes associé à l'écrivain et au pédiatre donc Alain Dubost, donc qui pour la partie texte, et vous, vous êtes occupé évidemment de la partie photo. Nous allons parler de ce livre dans cette émission. Je propose de démarrer par une phrase que je trouve très simple, mais loin d'être sans écho, qui est la première phrase du livre, et que vous nous commenterez juste après. À tous ceux dont ce pays a un jour changé le regard sur les autres.
C'est tout un programme littéraire et philosophique.
Parlez-nous déjà du projet. Comment il démarrait? Comment l'idée est venue?
Eh bien voilà, c'est en fait, quand je faisais mes études journalistiques, Place Saint-Germain-des-Prés, Alain Dubost était en train de terminer ses études de médecine à la faculté de médecine qui était tout à côté. Et on se retrouvait dans un bistrot qui s'appelle le Bonaparte, qui était bien différent de maintenant.
Bistrot bien connu de la place parisienne à Saint-Germain-des-Prés.
Exactement. Et avec Alain, on a partagé pas mal de moments sympathiques au moment de ma jeunesse. Et puis...
Une histoire qui remonte à loin.
Très long. Et Alain s'est mis à écrire des romans, d'excellents romans, sur l'Asie. Parce qu'il est aussi, il a fait partie de l'équipe des fondateurs de Médecins sans frontières. Et ce qui l'a amené à beaucoup voyager, à s'occuper de beaucoup de populations en Asie, en Afrique, à l'époque. Et un jour, donc il y a 3 ans maintenant... Je le rencontre dans un festival du livre où il dédicaçait son dernier ouvrage. Et là, je lui dis, je ne sais pas pourquoi, brûle pour point, dis donc Alain, j'aimerais faire un livre avec toi sur le Vietnam. Et il me dit, ça m'intéresse. 48 heures après, il m'appelle, il me dit, Louis, j'ai l'éditeur, on part. Donc on est parti quelques mois après.
En peu de temps.
Ah oui, l'éditeur, donc ce sont les éditions Timé. Qui ont accepté de programmer ce livre. Et ils nous ont envoyé donc là-bas 2 fois 1 mois. Et ça a été une découverte formidable, parce que c'était seulement pour moi la 2e fois que j'allais en Asie. J'avais plus l'habitude de l'Afrique, puisque j'avais travaillé pour des journaux Afrique Industrie, Afrique Agriculture.
Vous avez beaucoup voyagé dans votre métier pour justement alimenter les journaux.
J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Donc, j'avais fait 18 voyages en Afrique noire, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Et pour l'Asie, je connaissais juste le Cambodge, qui avait été une bonne préparation psychologique pour aborder le Vietnam. Et donc, nous avons fait d'abord le Nord-Vietnam, c'est-à-dire nous sommes partis d'Hanoï jusqu'à Bien Dien Phu, la frontière chinoise. Et ça a été... un émerveillement, parce que il y a beaucoup de paysages et de lieux qui sont restés dans la tradition du Vietnam, c'est-à-dire la culture du riz, la culture du thé, dans la tradition. Et nous avons eu la chance de rencontrer les tribus Monk de toutes les couleurs, puisqu'il y a les tribus Monk rouges, bleues, noires. Et ça a été quelque chose de formidable de voir l'authenticité de ces gens qui sont pauvres et qui souffrent sûrement pas mal quand même, mais qui, pour un regard d'occidental, est très, très enrichissant.
Absolument. Et alors, ce livre est une échappée. C'est une échappée vers des éléments très nobles qui sont, vous le dites vous-même, la terre, l'eau, la ville, le voyage, l'esprit. C'est une évasion au-delà des frontières du réel. Et tout en restant bien dans le réel aussi. Alors, à chaque, donc ce livre est décomposé en chapitres, hein, donc que je viens d'énumérer. Et prenons le premier qui est consacré à l'eau. Alain Dubos donc écrit des petits textes sous chacun des titres. Donc le premier qui concerne l'eau, je le lis et vous nous commentez ensuite, vous nous faites part de vos remarques. Tout vient d'elle. Le décor, le climat, les hommes, elle règne. Jamais neutre, imposant sa fantasque omniprésence. Elle est la mère de tout, maudite et adorée pour la vie qu'elle prend ou donne au gré de ses humeurs.
L'eau au Vietnam est partout. Partout, partout, que ce soit la mer, que ce soit le Mékong, que ce soit des bras du Mékong, que ce soit des lacs, l'eau est omniprésente.
C'est l'élément vital du pays.
C'est l'élément vital, c'est l'élément aussi de souffrance. Parce que toutes ces femmes qui travaillent dans les rizières pendant des heures et des heures dans l'eau, c'est quelque chose de très dur. Et parce qu'il y a pas de machines, quoi. On repique le riz, on travaille le riz dans l'eau. Et tous les jours, ces femmes, on les voit, elles arrivent à bicyclette le long de la rizière et elles vont travailler, repiquer ou ramasser le riz suivant la saison. C'est quelque chose qui est... Puis c'est très émouvant de les voir travailler, de les voir courber comme ça. Et ce sont souvent des très jolies femmes. Quand vous les voyez le soir, par exemple, dans
les petits
restaurants du bord de route, etc. Et ça fait plaisir de les voir. Mais il faut savoir que ce sont des gens qui souffrent beaucoup dans leur travail quotidien. Et le grand problème maintenant du Vietnam, c'est de pouvoir nourrir toute sa population qui est passée bien en deçà de 80 millions d'habitants. Et donc maintenant, ils ont beaucoup, beaucoup de mal pour pouvoir exporter du riz à l'étranger, qui est pourtant une des grandes richesses nationales, parce qu'il faut d'abord nourrir la population.
Et alors, donc, dans les photos que vous avez sélectionnées, parmi tous vos tirages qui concernent donc le chapitre de l'eau, quelle est celle qui vous apparaît comme la plus représentative de l'eau ? Il y a un cliché que je trouve assez intéressant, celle où on trouve des barques, des bateaux. Vous pourriez nous décrire cette photo ?
Alors ça, c'est une photographie qui représente des bateaux qui servent d'habitation à cette population qui vit sur le fleuve, qui s'appelle les sans-paniers. Mmh. En fait, ces bateaux ont été faits dans des matières très nobles, mais qui en fait proviennent de la récupération de l'aluminium, des B-52 qui bombardaient le Vietnam. Et lorsque les Américains sont partis, ils ont abandonné beaucoup d'avions qu'ils avaient démilitarisés. Et donc, ils ont découpé, soit dans les réservoirs d'essence, soit carrément dans les carlingues, ce matériau qui leur a permis de faire énormément de bateaux. Et c'est un métal très résistant.
Comme quoi la guerre... Malheureusement, on retrouve encore des séquelles visibles. Ah ben
là, ça, c'est une bonne séquelle. Ce n'est pas comme les temples à Hue qui ont été complètement abîmés par les bombardements.
On passe au chapitre d'après qui concerne la terre.
Ben, la terre, c'est la récolte du thé. Il y a d'immenses cultures du thé. Et ça, c'est une culture que j'avais déjà vue en Afrique. Mais là, le thé, c'est de voir toutes ces femmes aussi qui portent les paniers ou qui ramassent le thé avec des gants parce que la feuille émet un certain jus qui abîme les mains. Et donc elles
travaillent, teintent les mains également.
Qui teintent les mains, mmh, comme du henné pratiquement.
Ah oui.
Et donc elles utilisent des gants. Et elles ont des chapeaux typiques. Si vous voulez, le chapeau des Vietnamiens est très différent de celui des Cambodgiens. On les repère comme ça.
Et alors, quelle est cette différence de forme ? Le chapeau vietnamien est conique, en
conique,
fait.
Hein ? Tandis que l'autre est très, très différent.
Alors, la terre, Alain Dubos l'a décrit comme ce qui suit. Il serait illusoire de vouloir la séparer de l'eau. Leur couple est cohérent, en harmonie le plus souvent, tourmenté, parfois par des orages terribles, laissant tout en désordre. Ces brouilles finissent cependant par s'apaiser, tout rentre dans l'ordre, au point que l'on se demande si même elles ont eu un jour une réalité.
Je vais raconter une histoire où l'eau et la terre sont vraiment liées. C'était en montagne, et nous allions laisser les 4x4 et on était parti monter à pied, rejoindre une de ces maisons en bois, une de ces maisons typiques où on allait passer la nuit.
Sur pilotis.
Oui, et il s'est mis à pleuvoir. Et lorsqu'on a voulu redescendre le lendemain matin pour récupérer les 4x4, on n'a jamais pu passer ni enjamber le petit ruisseau sur lequel on était passé la veille. Parce qu'il s'était devenu une rivière, il a fallu qu'on monte plusieurs kilomètres pour aller trouver un petit pont qui nous a permis de passer de l'autre côté.
Les obstacles de la nature, quelquefois.
Et la terre, c'est quelque chose de terrible, parce que toujours dans le nord, là je parle de cette expérience, vous pouvez arriver où on voit la colline qui s'est effondrée sur la route. Alors il y a d'énormes engins qui viennent dégager, et puis si vraiment c'est trop important, vous êtes obligé de faire demi-tour et d'aller passer ailleurs. Cette terre rouge, comme la latérite africaine, qui est magnifique d'ailleurs.
Très caractéristique du pays. On voit beaucoup de couleurs, on voit beaucoup de sourires, beaucoup de force.
Les Vietnamiens ne sont pas du tout, c'est pas du tout comme dans le Maghreb, les Vietnamiens ne sont pas du tout hostiles aux photographes. Et si on les aborde de façon, comment dire, amicale, il n'y a aucun souci.
Oui, parce que, quelquefois, ils ne sont pas disposés aux photos. Est-ce que vous avez réussi à prendre tous les clichés que vous souhaitiez ? Ou est-ce que vous avez vraiment fait face à des embûches ?
Non, pratiquement jamais. Quoi. Parce que si on sent vraiment quelqu'un n'a pas envie, bon, on ne prend pas la photo. Cette photo sur laquelle vous êtes là est très importante. Parce que c'est la photo du riz qu'on va repiquer.
Alors donc, nous voyons un carré
de riz très serré.
De riz serré.
Et tout autour, vous avez le riz espacé qui va servir, qui va pousser.
On voit bien le contraste entre les deux.
Elle est totalement symbolique, cette photo.
Alors, vous pouvez nous l'expliquer, c'est-à-dire ce carré-là.
C'est là où les agriculteurs quoi, ont planté les éléments à repiquer.
Si vous voulez. Donc, c'est la source vive de toute la nourriture,
voilà.
Quoi, qui est la matière première, enfin la nourriture première des...
Mais il n'y a pas que le riz au Vietnam, il y a beaucoup de maïs aussi.
Mm-hmm.
Et il y a énormément, quand on va sur les marchés, il y a énormément de fruits, de salades qui sont très, très différentes les unes des autres. Alors qu'en France, il y a pas mal d'espèces qu'on ne connaît absolument pas.
Beaucoup de variétés.
Beaucoup de variétés.
Est-ce que c'est compliqué de transporter du matériel lorsque vous prenez ces photos ? Parce qu'on a des vues plongeantes, vous avez
tout transporté
vous-même.
Quand je suis parti au Vietnam, j'ai emmené deux Leica et puis un certain nombre d'objectifs. Et au bout d'une huitaine de jours, le rideau d'un des Leica est tombé en panne. Il n'était évidemment pas question de le faire réparer sur place. Et donc, toutes les photos du premier voyage ont été faites avec un seul appareil, avec un seul Leica, dont je changeais les objectifs au fur et à mesure des besoins.
Vous n'auriez pas fait confiance à la population, aux populations locales pour réparer
l'appareil ? C'est-à-dire que je pense que dans les grandes villes, par exemple à Saïgon, il y a sûrement un réparateur Leica. Mais ailleurs, dans le nord,
difficile.
À Hanoï, j'en ai pas vu, j'en connaissais pas. Et il y a un tel amour entre... Le photographe et son appareil photo entre moi et mon Leica, que j'avais quand même, justement, ça c'était à Diem Dien Phu, puisque c'est là que c'est arrivé, j'ai acheté un petit appareil de secours, parce que je me suis dit, si jamais le deuxième tombe en panne, c'est la catastrophe terrible. Et j'ai dû faire une ou deux bobines, parce que je travaille en argentique, et donc je n'ai pas eu à m'en servir, ce qui était du bonheur. Mais ça, le matériel, c'est toujours quelque chose d'inquiétant.
Enfin, vous vous en êtes très bien sorti. Vous avez choisi le Vietnam vous-même. Pourquoi cette idée du Vietnam ? Pourquoi ce lieu ?
Parce que c'est un pays... J'ai eu des amis vietnamiens quand j'étais jeune, qui étaient des gens absolument charmants, des gens issus de la première immigration que j'avais rencontrés. J'ai un ami qui était au lycée avec moi et... qui m'avait parlé du Vietnam. Il était très jeune et il jouait déjà merveilleusement du violon. Et je m'étais toujours promis d'aller un jour au Vietnam. Et quand j'ai eu donc l'opportunité de faire ce livre, ça a été un grand bonheur.
Beaucoup de populations locales. Vous avez
dans le
beaucoup
nord,
de
là,
photos
oui.
des ethnies du nord,
des ethnies
de vers
nord.
Sapa, des Hmong, toutes ces...
C'est très intéressant, mais il faut y aller avec un bon état d'esprit. Il ne faut pas y aller en touriste, il faut y aller en voyageur, c'est-à-dire avoir envie de parler avec eux, pas les considérer comme des bêtes curieuses, quoi. Il faut avoir un contact avec eux, il faut pouvoir... Et là, ça devient très intéressant. Ce qu'il faut, c'est avoir un bon guide, un bon traducteur, parce que maintenant, le français, malheureusement, c'est perdu. Il y a très peu de gens qui parlent français maintenant au Vietnam. Les gens qui parlent français, ce sont des gens qui ont autour de 70 ans et qui ont donc connu la guerre. Et il y a une chose qui est formidable, c'est que les Vietnamiens, dans la majorité, n'en veulent pas aux Français de la guerre qu'il y a eu, la colonisation. Tandis qu'il y a d'autres pays comme les Américains. Les Américains, ils veulent bien leurs sous, mais ils ne les aiment pas trop.
Parlons pour terminer de la partie guerre, puisque vous avez également voulu rapporter des clichés de cette période terrible de la guerre. Et donc, on voit des barbelés, on voit toutes sortes de photos choc. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots ?
C'est-à-dire, on est allé, ça m'a beaucoup intéressé, on est allé donc à Dien Bien Phu, sur les fameuses collines, les collines Isabelle, etc. Et on est allé dans le repère où d'où Diap commandait ses troupes. Et c'était très intéressant, c'est un long chemin, et on arrive. Alors là, il y a des cabanes où ils assuraient les transmissions, mais tout était très caché par la végétation. Et là, il y a une petite entrée qui cachait un tunnel très long. Et dans ce tunnel, qui pouvait être effondré s'il le fallait, on pouvait rejoindre le PC de Diap, qui était complètement à l'autre bout de la colline. C'est-à-dire qu'il avait toujours... Si le PC était attaqué d'un côté ou de l'autre, il pouvait toujours s'enfuir. Et finalement, ça n'a pas eu lieu.
Beaucoup d'histoires, beaucoup de patrimoine que nous survolerons grâce à vous, Louis Monnier. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce livre qui s'intitule « Vietnam Impression » et qui est édité chez Timé Éditions et dont vous êtes partie des deux auteurs, donc vous-même, Louis Monnier, et puis Alain Dubos pour la partie texte. Un livre qui retrace à la fois la géographie, mais la terre, la ville, l'esprit, le voyage du Vietnam. Alors régalez-vous de ces magnifiques photos. Et n'hésitez pas à réécouter cette émission sur canalacademy.com. Un dernier mot pour la fin, Louis.
Oui, je voulais dire que pour les hispaniques, le livre vient de sortir en Espagne, donc en espagnol.
D'accord. Bien, merci pour cette information et à très bientôt.
Et merci encore de m'avoir reçu.